Si vous venez de nous capter, sachez que vous êtes à l'écoute du studio Kalangou, 18h à Niamey, partout au Niger. Nous sommes mercredi 6 mars 2019. À tout de suite, le journal en français. Au sommaire de ce journal, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, rencontre des difficultés pour scolariser plus de 7000 enfants réfugiés du camp d'Abala dans la région de Tillabéri. Vous l'entendrez dans ce journal. Suite à un sitting organisé par les réfugiés soudanais en provenance de la Libye, lundi, devant le siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR à Agadez, une rencontre s'est tenue hier entre les autorités régionales et les deux parties pour trouver une solution. Les détails dans cette édition. La littérature orale et la place qu'elle occupe actuellement dans la société nigérienne, nous en parlerons tout de suite en partie magazine de ce soir. Au micro, Diallo Mariama Kenda, bonsoir, bienvenue à tous. Au Niger, les programmes télé pour enfants ne sont pas développés. Il arrive souvent que les tout-petits soient ignorés dans la programmation ou en contact avec des contenus violents. À la télévision nationale, par exemple, des émissions éducatives pour enfants existent. Cependant, à la télévision en famille, pour le moment, il n'en existe pas. Notre reporter Habibou Garba est allé à la rencontre de ces deux directeurs de programmes. Écoutons respectivement Idrissa Ibrahim de la télévision nationale et Akouté Amadou de la télévision en famille.
Nous avons beaucoup d'émissions, à l'exemple de la Petite École qui est diffusée le mercredi et rediffusée encore le dimanche. La Petite École, c'est un magazine qui comporte à son sein un divertissement pour enfants, qui comporte également à son sein des questions-réponses aux enfants et qui permet également aux enfants de se distraire par des jeux de langage. Les dessins animés qui sont actuellement diffusés sur les antennes de la télévision nationale, ils apprennent également aux enfants des histoires.
L'émission Fréquence primaire était une émission fortement prisée et pour le moment mise en veilleuse pour quelques temps, mais que nous comptons relancer d'ici peu. Plaise à Dieu. J'étais l'animateur de cette émission, une émission qui est beaucoup aimée. Les enfants venaient spontanément vers nous. Nous aussi, nous partions vers eux. C'était une émission vraiment populaire.
Créé en mars 2012, le camp des réfugiés d'Abala, région de Tillabéri, compte plus de 15 000 personnes, parmi lesquelles l'on dénombre au moins 9 000 enfants, dont 1 600 seulement sont scolarisés. Un véritable défi pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, qui cherche des solutions pour ces enfants non scolarisés. Mamadi Amadou Fata Kourouma, représentant adjoint du HCR au Niger, au micro de Abdoulaye Bagassa.
Nous avons environ 9 000 enfants. Nous n'avons pu scolariser aujourd'hui que 1 600 enfants. Et le gap, c'est autour de 7 000 enfants que nous cherchons à organiser à nouveau pour que ces enfants aient l'accès à l'éducation primaire, l'éducation secondaire et l'éducation tertiaire.
Qu'est-ce qui peut être les freins pour la scolarisation des autres enfants?
Nous avons beaucoup de facteurs. D'abord, les parents ne sont pas trop intéressés à l'éducation comme on le souhaiterait. Donc nous avons fait assez d'efforts, ils sont sensibilisés. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place les structures. C'est pourquoi vous avez cette mission de la Banque mondiale aujourd'hui pour nous accompagner, pour que ces enfants tous aient accès à l'éducation, tous aient accès à une infrastructure modèle et que les enfants soient encouragés à travers des tenues, à travers des goûters pour les permettre de rester à l'école.
Les réfugiés soudanais en provenance de la Libye ont organisé lundi un sitting devant le siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR à Agadez pour protester, selon eux, contre la lenteur dans la délivrance des papiers d'asile. Une rencontre a eu lieu hier entre les autorités régionales, les responsables du HCR et les réfugiés. Anissé Karim, notre correspondant, y était. Voici son reportage.
La lenteur dans le traitement des dossiers des demandeurs d'asile soudanais a conduit ceci à observer un sitting devant le siège du HCR mardi à Agadez. Le porte-parole des demandeurs d'asile, Mokhtar Hassan.
Notre situation dans le site est très précaire. Notre souci s'articule sur vraiment la détermination de notre statut de réfugié.
Le représentant du SR appelle au calme et a promis le traitement des dossiers en souffrance dans le respect du staff des humanitaires. Davis Kano.
Le traitement de leur demande d'asile est en cours. Les humanitaires et l'État du Niger ne méritent pas la pression qui est adressée tout récemment par les demandeurs d'asile pour traiter les dossiers rapidement. Les demandeurs d'asile vont patienter.
Pour le gouverneur d'Agadez, l'État nigérien est conscient de la difficulté liée au statut de réfugié. Toutefois, les autorités prendront des mesures qui s'imposent dans le respect de la réglementation, a déclaré Sadou Soloki.
L'État Niger est soucieux du respect par tous de ses lois et règlements. Et là, nous leur avons expliqué que l'État du Niger est souverain. Il se penchera au moment de sa convenance sur leur situation et le statut à leur octroyer. Et qu'en tout état de cause, personne ne saura mettre la pression à l'État par rapport à ce qu'il doit faire.
Avec l'appui des partenaires, l'État du Niger prendra toutes les conditions pour répondre aux attentes des 1547 demandeurs d'asile dans le respect strict des principes du droit international. Anissé Karim, Agadez pour le studio Kalangou.
En 2017, la mairie de Niamey a engagé l'opération Épave Zéro. Elle consiste à débarrasser la capitale des épaves de voitures. Depuis le début de l'opération, une certaine lenteur est observée. Le directeur des équipements marchands à la ville de Niamey l'explique par le fait que le travail se fait par étapes. Kalilou Adamou Bourema, directeur des équipements marchands de la ville de Niamey.
L'opération a sillonné, a évacué plusieurs épaves qu'ils ont déposées au niveau du parking de la route d'Osso. Même si on constate qu'il y a une lenteur, c'est que la ville de Niamey est sur plusieurs fronts dans le cadre de l'embellissement. L'opération est toujours en vigueur. Avec l'opération de décongestionnement des voies, nous allons encore procéder à l'évacuation de ces épaves-là pour libérer le domaine public. On n'a même pas encore à donner un délai aux gens. Donc, quand on vient, on évacue directement, on prend les épaves, on les dépose au niveau du parking route d'Osso. Parce que les garagistes ont déjà été avertis plusieurs fois. À tout moment, la ville peut intervenir pour dégager ces épaves. Et la lenteur s'explique par le fait que la ville de Niamey est sur plusieurs fronts. Et c'est les mêmes équipes qui sont sur les fronts.
Mais est-ce qu'on peut dire que la ville de Niamey ne dispose pas d'assez de moyens?
Je ne dis pas que la ville ne dispose pas de moyens, mais la ville fait avec ses moyens de bord.
La dégradation de la route Yaya Koni sur une cinquantaine de kilomètres causerait beaucoup d'accidents. Des usagers appellent l'État à agir vite pour réparer ce tronçon et réduire ainsi le nombre d'accidents.
Cette route Yaya Koni n'est pas bonne parce que ces derniers temps, on constate beaucoup d'accidents. Nous appelons à l'État de bien vouloir nous réparer cette route.
On appelle l'État au point de vue engagement qu'il a pris pour rétablir l'état de route, entretenir les routes et pourquoi pas créer les routes, mais même les pistes au niveau des campagnes pour permettre la circulation des marchandises, la circulation des personnes et éviter ce nombre d'accidents qui est en train de se produire. Et c'est grave, il n'est pas de l'honneur d'un État nigérien laisser les Nigériens en train de mourir sur les routes.
Pour recueillir par Asuman Arzika. Au Niger, particulièrement à Niamey, il n'est pas rare de voir des usagers au volant ou à moto se servir de leur téléphone portable pour Aliou Oumarou, président de l'ONG Fondé Mabouri, qui œuvre pour la réduction des accidents de la route. C'est un comportement irresponsable et dangereux à bannir.
L'utilisation du téléphone cellulaire multiplie par 4 le risque de survenir d'un accident. Ça, c'est juste en décrochant un appel. Faire un message multiplie à plus de 10 le risque de survenir d'un accident. Donc, il faut que les jeunes se disent qu'un accident n'arrive jamais par accident. Beaucoup d'accidents sont provoqués par nos comportements souvent irresponsables. Si on pense qu'on ne doit pas prendre une minute pour s'arrêter et écrire, on va prendre des années sur un lit d'hôpital ou même se retrouver au cimetière. Donc, c'est ça le danger qui guette en utilisant le téléphone cellulaire au volant. Donc, c'est un comportement à bannir. C'est un comportement sur lequel les autorités doivent prendre des dispositions au même titre que le port obligatoire du casque et au port obligatoire de la ceinture de sécurité. L'interdiction du téléphone cellulaire au volant doit être une priorité. En Europe, lorsque cela a été interdit, les accidents continuent à baisser chaque année. Mais malheureusement, en Afrique et au Niger particulièrement, le taux de gravité ne fait que s'élever.
Propos recueillis par Asumana China, il arrive des fois que les problèmes de la vie nous submergent et on ne trouve plus de sens. Cet état est qualifié de dépression par les spécialistes en santé. Parfois, il peut conduire au suicide. Dans plusieurs cas, nous indique Dr Jamila Ferjani. Elle nous donne plus de détails sur cette pathologie.
C'est une pathologie dont la gravité peut porter au suicide. Les différents signes de la dépression peuvent aussi être assimilés à une tristesse simple, une fatigue. Et deuxième signe, ce désintérêt qui dure toute la journée, qui dure tous les jours. La personne peut perdre du poids ou elle peut prendre beaucoup de kilos en plus sans qu'il y ait aucune explication. Il y a le sommeil qui se modifie, la qualité du sommeil n'est plus là, soit la personne dort beaucoup, soit elle ne dort plus. Nous avons le manque de pouvoir de concentration et de mémorisation. La personne voit sa concentration et sa mémorisation diminuer. Quand vous voyez tous ces signes, le médecin doit évoquer ça et ça peut finir par un suicide. Quand on fait ce diagnostic, il faut que le médecin prenne en charge la personne et lui prescrive une thérapie. Ça peut être juste une thérapie psychologique, mais très souvent, le médecin l'accompagne avec un traitement médical.
Propos recueillis par Olivier Assoubavi. Fin dimanche à l'université de Niamey, des rencontres littéraires de deux jours organisées à l'intention du grand public dénommé « Lire ensemble » par des jeunes écrivains nigériens. Une initiative ayant contribué à mieux faire découvrir la littérature nigérienne, explique l'un des organisateurs, Manou Sekou Abdoul Nasser, auteur du prix de la journée du manuscrit francophone 2017, au micro de Michel Dedji.
Il y a un constat qui est amer, les professeurs s'en plaignent tout le temps. Les élèves n'ont plus de bon niveau faute de lecture. Nous avons tenu un panel. Il y avait d'autres illustres écrivains, des écrivains plus jeunes. Parce qu'on s'était dit, quand on a des gens qui ont presque le même âge, le message va mieux passer. Pour la relève, d'abord, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une démarche multi-acteurs. D'entre eux, les parents, ensuite les professeurs, l'État et enfin les élèves eux-mêmes. Vous voyez, un enfant qui est dans une famille où le père lit ou la mère lit n'a pas les mêmes compréhensions de la chose qu'un enfant qui n'a même pas à sa disposition un ouvrage. Donc, essayer de travailler de concert, je pense bien que c'est la meilleure solution pour pallier ce problème viscéreux qui mine la société nigérienne, même de par le monde de problèmes liés.
La partie magazine de cette édition à 18h passée de 11 minutes. La littérature orale est encore vivace au Niger. S'agissant des contes, par exemple, Amadou Seydou, chef département français à l'école normale supérieure de Niamey, indique qu'ils ont une place importante parmi les distractions au Niger. Les contes sont le reflet de la tradition africaine. Ils sont éducatifs, simples et comiques. La rédaction du studio Kalangou s'est intéressée à la question de la littérature orale et de sa place actuelle. Suivez son reportage. La littérature orale est notre première école, selon Hachimou Oumarou Didefo, promoteur du Festival international du conte et des arts de l'oralité Gatin Gatin. Didefo souligne que cette littérature est de moins en moins utilisée du fait du nivellement culturel et de la problématique de transmission.
La littérature orale, c'est d'abord notre première école. Mais en réalité, c'est vrai qu'en termes d'outils, elle est de moins en moins utilisée. Nous sommes dans un processus de nivellement culturel, alors qu'avant, nous, dans la famille, il y a un oncle qui est le détenteur du savoir de la communauté, et du royaume, ainsi de suite. Donc la transmission, il n'y a pas de souci.
Pour Amadou Seydou, chef département français à l'école normale de Niamey, la littérature orale tient toujours sa place. Ce qui a changé, selon lui, ce sont les valeurs véhiculées.
Tous les jeunes, peut-être plus dans les grandes villes, mais en campagne, qui se retrouvent tous les soirs sur la place publique, ils chantent, ils créent des petites histoires qu'on se raconte tous les jours dans les différentes conversations qui meublent la vie quotidienne. La littérature orale existe, elle est dynamique, même en ville, même les jeunes, les citadins produisent la littérature orale. Le rap, regardez le slam, il y a une dynamique en termes de contenu. Aujourd'hui, je constate simplement que les valeurs qui sont véhiculées ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait connues il y a 10 ans. 20 ans.
C'est l'histoire d'un homme. Cet homme, il est nommé le Peter dans son village là. Maintenant, parmi ces gens qui entendent parler de lui là, un s'est levé un beau matin. Il s'est dit, hey, house funny quoi. Ah, je suis un Peter aussi. Il faudrait que j'affronte ce house funny quoi en disant, allez les gars.
Cette voix est celle de la conteuse Aissatou Fofana qui fait ce travail depuis 2015. Elle dit être passionnée et contribue ainsi à la fois à l'éducation des enfants et à la pérennisation de cette pratique dont elle n'a pas hérité.
Les contes, c'est dans nos traditions. Comme on ne tient pas à ce que ça disparaisse, c'est une façon de véhiculer un message. Parce que le conte, ça éduque. Ça édifie l'adulte et l'enfant. C'est à travers le conte que l'enfant peut faire la différence entre le mal et le bien.
L'Afrique est par excellence le continent de l'oralité. L'on se souvient encore de géants de l'art comme Diado Sekou, Djeliba Badié ou Ampateba. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le forum de studio Kalangou présenté par Madou Mokhtar.